Nous entendons tous les ans, le jour de la fête de la Toussaint, en première lecture, ce chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, où Saint Jean a une double vision. Il voit 144 000 personnes marquées d'un sceau, et puis ensuite il voit une foule immense, innombrable, vêtue de robes blanches. Et au moins le chiffre de 144 000, vous le connaissez sans doute grâce à vos boîtes aux lettres, aux démarches des témoins de Jéhovah, etc., etc., qui vous disent « Venez chez nous, car il n'y aura que 144 000 sauvés, n'est-ce pas ?» Mais j'ai toujours été nul en maths, c'était mon point faible quand j'étais en classe, mais quand même, 144 000, ce n'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est à votre portée. Prenez le chiffre 12, réfléchissez un tout petit peu, le chiffre 12, c'est celui des 12 apôtres, choisi par Jésus, c'est celui des 12 tribus d'Israël. Donc c'est dans la Bible le chiffre qui symbolise le peuple de Dieu. Les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu. Et Jésus, à cause de cela, a choisi comme fondement de l'Église 12 apôtres. Non pas 15 ou 20, mais 12. Chiffre symbolique, bien sûr, mais pour faire référence à cela, le peuple de Dieu. Eh bien, prenez le chiffre 12, mettez-le au carré. Donc 12 fois 12, ça fait 144, jusque-là ça va. Multiplié par 1000, qui est un coefficient de multitude, vous savez, les enfants, quand ils jouent à la marelle, ou 1, 2, 3, 4, 5, 1000, c'est un gros chiffre, n'est-ce pas? Eh bien, multiplié par 1000, chiffre de multitude, 144 000, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu sur la terre, 144 000. C'est pas un chiffre réduit. Il n'y en a que 144 000, au contraire, c'est un chiffre exponentiel, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu. Saint Jean voit l'ensemble du peuple de Dieu au cours des âges sur la terre et il est marqué du sceau. Il y a un ange qui tient un sceau, qui imprime la marque du Dieu vivant et qui dit « Permettez, ne dévastez pas la terre et la mer, permettez que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Voilà. Nous avons une marque qui est la marque du baptême. Et même dans l'Apocalypse, c'est plus encore, c'est la marque du martyr qui plus est. Parce qu'à l'époque où Saint Jean écrit, il y a de nombreux martyrs. Et la question qui l'intéresse, c'est que deviennent les martyrs après la mort. Mais voilà, la marque du baptême. Nous sommes marqués du sceau du Dieu vivant. Quand vous croisez deux personnes dans la rue, il y en a une qui est baptisée, l'autre qui n'est pas baptisée, quelle est la différence? Il n'y en a pas. Extérieurement, il n'y en a pas. Vous pouvez regarder sous toutes les coutures, il n'y en a pas extérieurement. Mais quand Dieu regarde, il voit que chez l'un, il y a la marque de sa vie, de sa présence, et pas chez l'autre. Nous sommes marqués de la marque du sceau du Dieu vivant. Nous avons une mise de fond de vie divine qui nous rend saints au point de départ, qui déjà nous donne un bagage de sainteté. Et si vous voulez un exemple, il est ici à votre gauche. Vous avez l'exemple de la Vierge Marie. Le 8 décembre, vous savez bien, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception. Et qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? C'est une mise de fond qui a été faite pour Marie, encore plus grande que pour nous. Elle a été préservée du péché originel par anticipation. Par préservation, elle a été libérée du péché originel. Nous nous sommes libérés par guérison, par notre baptême, mais elle, ça a été avant sa naissance et même avant sa conception. C'est pour ça qu'on appelle Immaculée Conception. Voilà. Elle a bénéficié d'une mise de fond qui est une sainteté originelle au point de départ. Elle est toute sainte. Si bien que sur cette base, avec sa liberté de femme, elle n'a jamais péché au cours de sa vie. Elle n'a jamais péché, personne. Elle n'a jamais rien refusé à Dieu. Alors nous, ce n'est pas pareil. Nous sommes marqués par le péché originel quand nous naissons. Et nous pouvons bénéficier d'une grâce de guérison, qui est la grâce du baptême, qui en même temps met en nous une mise de fond de sainteté. Et sur cette base, qui est une nature blessée mais guérie, réparer en quelque sorte, grâce de réparation, c'est sur cette base que nous avons à développer notre sainteté au cours de notre vie sur la terre. Et nous avons à chercher à réussir notre vie en étant des saints. Et je vous assure, c'est une bonne nouvelle, parce que Il ne s'agit pas de réussir sa vie professionnelle. Là-dessus, il y en a qui réussissent bien, d'autres qui réussissent mal. Il ne s'agit pas de réussir sa santé. Il y en a qui ont une bonne santé, d'autres qui ont une mauvaise santé. On n'y peut pas grand-chose. Quelquefois, il y a un problème de santé qui nous arrive et on se demande ce qui se passe. Mais ce n'est pas ça qui nous est demandé. Il ne s'agit pas de réussir forcément notre vie conjugale ou familiale. Si c'est le cas, tant mieux. Tant mieux. Mais ce n'est pas forcément ça d'abord qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de réussir notre accueil de la lumière de Dieu en nous, de la sainteté de Dieu en nous. Et ça, ça peut se vivre à tous les âges, quand on est tout petit, quand on est adolescent, quand on est adulte, quand on est vieux. Ça peut se vivre dans toutes les circonstances, qu'on soit au chômage, qu'on ait une profession, qu'on soit retraité. Ça peut se vivre dans tous les cas, qu'on soit malade, qu'on soit sur un fauteuil roulant, qu'on soit valide et en bonne santé. Ça peut se vivre dans tous les états de vie, qu'on soit marié, consacré, célibataire sans l'avoir choisi, veuf, etc. Ça peut se vivre dans tous les services d'église, dans tous les ministères, prêtre et marié, consacré, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la réussite de notre vie, aux yeux de Dieu, n'est pas la réussite de notre vie humaine telle que le monde l'entend, telle qu'on voit dans les publicités, vous savez, il faut être en bonne santé, avoir une bonne tête, être vraiment pétant de santé, de forme, jeune de préférence, n'est-ce pas, et de l'argent plein les poches. Ça, c'est ce qu'on nous présente à la télé, mais c'est pas ça, aux yeux de Dieu, c'est pas ça du tout. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Vous et moi, nous pouvons chercher à réussir notre vie aux yeux de Dieu en étant des saints. Et nous bénéficions d'une mise de fonds, d'un héritage qui nous a été donné, et c'est Jésus qui nous l'a acquis. Vous savez, quelquefois, les parents peuvent nous donner une petite somme d'argent au point de départ de notre vie, on a un petit héritage, voilà. Et bien, dans le cas de Jésus, il nous a procurer la sainteté au point de départ dont nous pouvons bénéficier comme mise de fonds sur laquelle nous allons pouvoir développer. Malheureusement, il peut nous arriver de dilapider cette mise de fonds. Vous savez, c'est la parabole du fils prodigue dans l'Évangile qui dit à son père, ras-le-bol, je quitte la maison, fiche-moi la paix, moi je fous le camp, à moi l'héritage, je fais ce que je veux. J'ai bien le droit, non? Je fais ce que je veux, voilà. Hein, réaction adolescente, bon, mais ça, on y passe tous. Quand c'est à l'âge adulte, c'est plus grave déjà. Mais voilà. Et donc nous pouvons dilapider, nous pouvons aussi abîmer cette sainteté. Mais là, il y a une possibilité de réparation qui nous est proposée par le sacrement de réconciliation, s'il vous plaît. Il y a un sacrement dans l'Église qui est un sacrement de réparation. Quand votre auto a un problème, vous allez chez le garagiste. Quand vous avez abîmé votre sainteté, vous pouvez passer par la réparation, qui est le sacrement de réconciliation. Excusez-moi, je dis ça sur un mode plaisant, mais en même temps, c'est important. Vous savez, je n'ai pas confessé une seule personne hier ni avant-hier de la chapelle Saint-Aubin. Il y a donc un problème quelque part. Ou bien vous êtes tous des saints extraordinaires, lumineux, fantastiques, vous n'avez jamais abîmé votre sainteté. Bravo, je vous félicite. Ou bien il y a un réel problème, c'est que vous n'avez pas conscience d'être abîmé et d'avoir péché. Alors là, c'est déjà plus grave, il va falloir regarder ça de près. Mais généralement, quand la voiture a un problème, elle fait un bruit bizarre. Mais là, quand on est pécheur, quelquefois, on ne s'en rend même pas compte. C'est bien ça le problème. Et donc, il va falloir qu'on regarde ça de près. Il n'y a pas de thermomètre, c'est dommage. Hein. Il n'y a pas de thermomètre pour savoir où est-ce que j'en suis de ma sainteté, ce serait bien pratique. Mais voilà, il y a un sacrement dans l'Église qui est le sacrement de réconciliation par lequel le Seigneur nous dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et il nous remet dans la sainteté de notre baptême. Je vous assure que c'est quelque chose de grand pour le prêtre qui donne l'absolution et pour la personne qui la reçoit. C'est quelque chose de très grand. Moi, je suis toujours très très ému quand je donne le sacrement de réconciliation parce que ça dépasse totalement les possibilités humaines et c'est vraiment Dieu qui agit et qui guérit et sanctifie. Nous avons la grâce de l'Eucharistie. Tout à l'heure à la messe, nous allons pouvoir communier, à moins que nous ne soyons pas confessés depuis plusieurs années, auquel cas il faudrait commencer par ça. J'ai quand même le devoir de vous le dire, qu'il faut commencer par demander la purification du cœur avant d'aller recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Mais voilà, nous pouvons vraiment venir recevoir la sainteté de la vie de Dieu, qui Jésus, en nous alimentant de sa vie, nous entretient dans la sainteté vivante de Dieu. Lorsque vous prenez un petit temps de prière chez vous, dans votre chambre ou ailleurs, vous prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour prier, vous vous mettez sous le rayonnement de la sainteté de Dieu et vous augmentez votre sainteté quelque part. Il n'y a pas besoin d'aller se mettre dans un grille-pain, vous savez, chez la personne qui vous fait des UV pour vous faire bronzer, machin. Il faut, la prière nous met dans le rayonnement de la sainteté de Dieu. Et quand vous ouvrez votre Bible pour lire la parole de Dieu, Dieu vous dit que sa sainteté vous aime et veut vous transformer, vous nourrir. Voilà, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous dire ce matin, que nous venons tous accueillir. Nous sommes déjà sur la base de la sainteté dans par notre baptême. Remarquez, il y a une petite dérive en ce moment, j'entendais ça sur RCF. Je ne sais pas si vous écoutez RCF, c'est la radio chrétienne du diocèse, ça se trouve sur la fréquence 101.2. Et il y a une mode qui s'est répandue ces 20 dernières années, c'est de souhaiter, le jour de la Toussaint, c'est de se souhaiter la fête. Bonne fête! Vous êtes déjà des saints, bonne fête à vous, etc. Oui, oui et non, ça reste à prouver, quoi. Hein. Bon, on a il ne faut pas confondre, quoi. Hein. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a été canonisée. Bon, ça au moins c'est clair. Mais on n'est pas canonisé encore, on peut pécher. Et on n'est pas forcément tout à fait saint dans la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, se souhaiter la fête le jour de la Toussaint, oui. Bon, parce que par le baptême, nous avons reçu une mise de fond, mais ça ne suffit pas. Il faut la développer et il n'y a que Dieu seul qui peut nous sanctifier. Au fond, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Dieu seul est saint et c'est lui qui vient rayonner sur nous sa sainteté et nous transformer. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Quand nous mourrons, c'est le fait de devoir brûler en nous tous les résidus de péché qu'il peut y avoir, toutes les racines de péché. Vous savez. Quand vous allez chez le dentiste pour vous faire enlever les dents de sagesse, ça m'est arrivé, vous connaissez l'histoire. Hein. Bon, ben, il faut piquer pour endormir, puis après il faut arracher jusqu'à la racine, parce que sinon ça va s'infecter et poser problème. Le purgatoire, c'est quoi? Il faut arracher toutes les racines de péché auxquelles nous avons consenti pendant notre vie. Bon, c'est quelque peu douloureux, mais il n'y a pas de sainteté sans ça. Donc, il faudra qu'on y passe tous, mes frères et sœurs. Il faudra qu'on y passe tous par le purgatoire, il faudra arracher les racines de sainteté pour vraiment pénétrer dans la sainteté divine et que sa sainteté nous transforme totalement, nous fasse totalement brûler, que nous soyons lumineux de la sainteté divine. Quelle bonne nouvelle! D'où la deuxième, et je termine par là, la deuxième vision de Saint Jean, qui est celle des personnes avec des robes blanches qu'ils voient. Mais c'est les mêmes, c'est les 144 000, mais cette fois-ci au ciel, dans la gloire de Dieu, et ils sont revêtus de robes blanches. C'est la gloire de Dieu. Et Saint Jean pose la question à l'ange de service en disant « Mais qui c'est tous ces gens-là? D'où viennent-ils ?» Et l'ange lui répond « C'est toi qui le sais. » Et Saint Jean dit « Non, pas du tout, tu vas me le dire. » Et l'ange répond « Ils viennent de la grande épreuve. » La vie sur la terre, c'est une grande épreuve, c'est difficile. Et ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ah, il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous purifier de tout péché par le baptême et les autres sacrements. Voilà. Alors puissions-nous parvenir tous, frères et sœurs, à la sainteté dans la gloire de Dieu. Même les gens que nous aimons le moins risquent de se retrouver au ciel avec nous. Ah là là, quelle affaire! Et donc, il faudra que tous ensemble, nous soyons vraiment totalement transformés, que nous chantions l'amour de Dieu pour tous, pour nous tous. Amen.